Ben, si tu veux, c'est un petit peu aussi le même problème. Enfin, je m'ennuie de parler de moi, ben, puisque tu vas me cerner, tu vas me piéger de toute façon.
L'instant 2.
L'instant 2.
L'instant 2. Vous allez rencontrer quelqu'un.
On m'a souvent dit, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Je crois pas à ça. Je crois qu'il faut avoir une loi, il faut être sa vérité. Il faut se battre proprement, loyalement. Il faut savoir que chaque jour est un combat. Le lendemain, il faut tout refaire. Il faut aller chercher. C'est merveilleux. Aller chercher les gens qui ne veulent pas, qui se refusent, par pudeur. Comme ça, lentement. On ne peut pas tricher.
Un invité.
Partez à sa rencontre. Prenez le temps de partager.
L'instant 2
sur Radio Grenouille. Ne me secouez pas, je suis pleine de larmes. Cette citation d'Henri Calais, je ne sais pas vous, mais moi en ce moment j'ai envie de la crier, j'ai envie de la dire, en douceur, en souriant, à l'oreille, parfois en fait presque tout le temps, parce que les mots souvent ne disent pas tout. Souvent d'ailleurs ils disent rien, bah, rien du tout. Notre invitée du mois, quand on la voit sur scène ou dans la vie, on a plutôt envie de lui dire « mais secouez-moi Catherine Germain, secouez-moi encore et toujours, parlez-moi à l'oreille, dites-le en criant, dites-le en souriant, mais secouez-moi encore ». Parce que dès qu'on la voit, Catherine Germain, on se sent mieux, on se sent moins seul en fait. On se sent juste moins seul face à un monde qui est trop en mouvement, parfois trop violent, parfois d'ailleurs trop joyeux. Bref, on se sent vivant. Comédienne, clown, elle est avec nous pour une heure comme un poisson dans l'eau, sans faux semblant et en se découvrant d'un fil. Vous êtes dans l'instant 2 et vous êtes sur Radio Grenouille.
Un moment s'il vous plaît.
Bonjour Catherine Germain.
Bonjour.
On vous dit souvent que vous faites du bien.
Souvent, je ne sais pas, mais c'est vrai, je l'ai entendu. Je dois le dire, c'est très agréable d'entendre ça. Enfin, franchement, on me l'a dit plusieurs fois, oui, quand même.
J'ai vu votre regard s'interroger, s'émerveiller quand vous avez entendu le générique de l'émission. Pourquoi ?
Parce que j'aime fortement Barbara, que la manière dont elle a mené son chemin me touche, elle est à fleur de peau, elle est transparente dans la personne qu'elle est et ce qu'elle fait sur scène et comment elle chante et ce qu'elle chante et comment elle rencontre le public. Et j'étais touchée aussi par la manière dont, quand elle allait en tournée, elle habitait les théâtres dans la journée avant de jouer le soir. Toutes ces choses qui font que la vie et l'art sont intimement mêlées, ça m'interroge, ça me bouleverse, oui.
Et ce qu'elle dit précisément dans le générique, j'aime les gens qui se refusent, comme ça, par pudeur, lentement. On n'a absolument pas touché à cette interview qu'elle a donnée, télévisée ou radio.
Oui, bah, c'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi. Du coup, je ne savais pas si c'était générique ou pas, parce que je me suis dit peut-être que vous l'avez choisi.
Voilà,
parce que ça me parle d'aller chercher les gens au plus profond d'eux, les plus reculés, les gens qui sont enfouis à l'intérieur d'eux-mêmes sous des tonnes de gravats, qui sont perdus dans leur existence par rapport à le rapport au monde, ce qu'elle dit de ça fait écho quand je travaille sur un plateau et dans la vie aussi. Mais bon, j'essaie de me placer toujours au niveau du travail que je fais, d'aller chercher les gens là où ils sont le plus loin.
Est-ce que c'est parce que vous êtes d'une famille de paysans ? J'ai toujours posé la question.
Ça s'est marqué dans mon CV.
Ouais.
Mais
non, parce que quand vous dites chercher des gens loin, moi, ce que ça m'évoque, c'est loin géographiquement, parfois aussi oublié, peut-être invisible, des grandes villes, des grandes agglomérations. Voilà, je pensais à ça vous écoutant.
Je ne sais pas, je ne peux pas dire, mais bon, c'est vrai que j'étais quelqu'un qui était loin aussi de ce métier, a priori, qui vivait plutôt de façon très pudique ou très timide dans le fin fond des champs. Donc, il y a peut-être effectivement un éloignement de fait d'il y a très longtemps et que je transparais là. Enfin, je porte avec moi toujours, c'est possible, oui, mais... Oui, j'ai l'impression de venir de loin, m'approcher des autres et de sentir que quand on s'approche, tout un chacun vient de loin. Enfin, déjà, pour faire ce chemin, pour aller rencontrer quelqu'un, ça demande, pour que la rencontre soit belle, ça demande à chacun de venir de loin aussi, je pense. On n'est pas là pour simplement se séduire, on est là vraiment pour se reconnaître. Et le temps de se reconnaître, c'est comme une famille qui aurait perdu la trace, quoi. Donc on va vraiment chercher l'autre en attendant qu'il arrive. à la surface aussi.
L'instant 2.
Dans vos spectacles, en tout cas le sixième jour, parce que c'est celui qu'on a vu à la Friche il n'y a pas si longtemps, du décor, il n'y en a pas beaucoup et en même temps il est essentiel.
Ah ben, il est absolument essentiel parce que c'est le contexte dans lequel rentre ce personnage, ce clown, c'est vraiment une vraie conférence. Elle n'était pas dédiée à cet être-là qui rentre, c'était une conférence qui devait se faire avec une autre personne qui, elle, était conférencière. Ouais. Donc du coup c'est un lieu, elle s'est usurpée, c'est un lieu, elle rentre, ce n'est pas son endroit.
Qui est même trop grand pour ce personnage Arletty, oui, ce personnage de clown, et la table est trop haute, tout est trop dur en fait.
En tout cas rien n'est à la bonne taille, n'est pas à la bonne taille puisqu'elle est en train d'advenir, elle rentre dans la lumière comme le premier jour de l'existence, donc elle est en train de venir au monde, elle ne sait pas que dans un cartable qu'elle a appris à un vrai conférencier, il y a justement le sujet de la création du monde, et elle essaie déjà tant bien que mal de se faire passer pour une vraie conférencière. Mais quels sont les gestes d'une conférencière, enfin d'un conférencier, comment on pose les objets, comment on se prépare, comment on salue les gens, toutes ces choses qui font que ça, c'est une aventure costaud, quoi.
Est-ce que vous pensez que ça résonne autant dans un public qui est nombreux maintenant, parce que ça fait combien de temps que vous le jouez, le sixième jour?
Presque 28 ans, 30 ans, ouais.
Est-ce que vous êtes consciente que, Catherine Germain, vous avez transmis beaucoup de choses à beaucoup de gens, qu'ils soient d'ailleurs publics, ou qu'ils soient clowns aujourd'hui, ou artiste, ou comédien, ou acrobate, parce que vous faites des stages aussi, vous enseignez depuis longtemps.
Oui, je m'intéresse aux acteurs parce que étant actrice moi-même, je sais que le travail est incessant et que je vois combien la cuisine, l'atelier dans lequel on évolue pour faire ce métier, il est à travailler comme vraiment des gammes, quoi. On a tendance à dire que on a de l'expérience, c'est sûr, mais on a surtout à conserver cette fragilité au sens où cette question du premier moment où on rencontre l'autre. Donc cette chose-là, pour devenir un musicien de ça, ça demande vraiment de remettre toujours son rapport au monde, en tout cas sur le plateau, en question. Et c'est ça, ça se travaille parce que chaque fois qu'on rencontre le public, la question, c'est quand même de passer cette soirée avec le public. Pour moi, c'est la première des urgences.
Une urgence.
Oui,
se
parce
rencontrer,
que
c'est une urgence.
L'urgence, en tout cas, de vivre un présent. Un présent présent au sens présent les uns aux autres. Être ensemble, c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident d'être avec quelqu'un en entier, c'est-à-dire dans son entièreté, qui serait entièrement disponible à l'instant, et du coup, qui dans cette relation se révèle lui aussi tout autant, enfin que les deux cèdent à venir au monde.
Il y a quelqu'un que vous avez, vous en souvenez ou pas, Catherine Germain, aidé à naître un peu, ou en tout cas aider à devenir clown. Elle s'appelle, peut-être que ça vous dit quelque chose, vous en rencontrez beaucoup, elle s'appelle Elsa Maigne. Ça vous dit quelque chose, Elsa Maigne? Comme ça, non?
Je vais peut-être savoir en l'écoutant.
Elle a voulu vous dire merci, en fait. C'est marrant, ça, quand même. Et tout fait sens, parce que vraiment, elle n'avait pas prévu. Quoi qu'il en soit, elle est clown aujourd'hui. et on va vous la faire écouter ce merci.
L'instant 2.
Instant.
Sur Radio Grenouille.
Vous allez rencontrer quelqu'un.
J'ai connu Catherine Germain quand j'ai habité à Marseille et que je suis allée à la Friche l'Appel de mai. pour voir les spectacles en fait de la compagnie L'Entreprise. C'était il y a 6 ans, je crois. Et la première fois que j'ai vu Catherine Germain sur scène, c'était pour le 6e jour, je crois. En tout cas, c'était j'ai découvert le clown Arletty, donc son personnage de clown. Et ensuite, j'ai vu Le Voyage de Pénazard. Et ces deux spectacles qui m'ont vraiment marqué parce que j'ai été vraiment très émerveillée par l'incarnation du personnage, de son clown, Arletty. Elle incarne un personnage et des fois elle apparaît en comédienne sans le masque. Et la métamorphose, c'était vraiment fascinant. Elle incarne un personnage jusqu'au bout des ongles. C'est vraiment... C'était la première fois que je voyais ça. Donc j'ai été fascinée par ça. Et ça faisait quelque temps que je m'intéressais au clown. Donc du coup, j'ai été vraiment... j'ai adoré son personnage Arletty. J'ai vraiment trouvé ce personnage qu'il était vraiment... comme elle dit dans son livre qu'elle a écrit avec François Cervantes, le clown est un poème sur pattes. C'était vraiment exactement ça que ça m'a fait quand j'ai vu la première fois Arletty. Et c'était super parce qu'en fait, j'étais tellement bouleversée que j'ai voulu la rencontrer pour en discuter avec elle parce que j'étais dans une période de ma vie où je voulais changer et je voulais faire du clown. Je voulais faire du clown de manière professionnelle. Et je me suis dit, bon, j'aimerais bien la rencontrer pour en discuter avec elle. Et j'ai envoyé un mail à la compagnie. Elle m'a répondu en me disant, ok, on s'est rencontrés, on a bu un café, on en a discuté. Et après ça, j'ai fait une école de clown et maintenant, je suis clown professionnel. Donc, c'est vraiment une comédienne qui m'a beaucoup inspirée et beaucoup aidée pour mon chemin de clown, en tout cas. Voilà.
L'instant 2.
L'instant 2.
L'instant 2. Vous allez rencontrer quelqu'un.
Elsa Maigne, une chronique de Clémence Fuléda, sa cousine, figurez-vous, Catherine Germain, comme quoi le monde est tout petit, avec des extraits sonores de son spectacle à Elsa Maigne, puisque vous l'aurez compris, elle est devenue clown professionnel, spectacle qui s'appelle Marais, M-A-R-E-E, avec la compagnie qu'elle a montée, Adriano Riva, qu'on entend un peu crier comme ça derrière elle, et qui s'appelle Le Bureau des Pensées. Voilà, belle chronique en tout cas, pleine de poésie et de sens. Alors, comme ça, vous buvez des cafés, et puis comme ça, d'un coup, Catherine Germain, les gens, ils deviennent clowns. Voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Oui, non, je pense pas, mais... non, je pense pas que ça se boit comme ça, un café. Si, ça se boit facilement avec les gens et avec plaisir, mais après, ce que chacun fait comme chemin là-dessus, non, c'est...
Bien sûr.
C'est, j'y suis pas pour grand-chose, mais je pense qu'on a effectivement... Enfin, je comprends que, voyant un spectacle ou un clown qui nous parle, qui nous traverse comme ça, ça réveille chez soi aussi des élans et que quelqu'un qui du coup est comédien ou qui a touché à cette fibre de l'envie d'aller vers le clown, ben il y va, oui, peut-être ça lui fait faire un pas. Mais pour y aller vraiment, il faut déjà avoir un désir derrière très particulier, ça se fait pas... C'est
ce
particulier qu'elle
dit,
quand même.
Elle dit, c'était un moment de ma vie où j'avais
envie
de...
Oui, des déclencheurs qui peuvent comme ça faire qu'on se lance pour le coup pour de bon, parce que ça met la dernière touche.
Quel a été le déclencheur pour vous, s'il y en a eu un, de devenir comédienne ou de créer le personnage d'Arletty et peut-être à ce moment-là de devenir clown? Ah voilà, je ne sais pas à quel moment ça s'est produit. Cet instant précis, il a été précis.
Je ne sais pas s'il a été précis parce qu'en tout cas, c'est toujours né d'une démarche théâtrale et moi au départ, quand j'étais donc dans ma campagne lointaine, le désir d'être comédienne, qui était le premier, je ne savais pas, alors clown, j'étais loin de tout ça bien sûr, Je n'y pensais pas à ce moment-là, mais le désir d'être comédienne, c'était même pas d'être comédienne au fond, parce que je n'y pensais pas, j'aurais pu faire un autre métier, c'était de faire du théâtre qui m'intéressait. Être comédienne, maintenant, comme il y a plein d'écoles, les gens sont comédiens avant de faire du théâtre, donc c'est encore un autre sujet. Mais c'était, du coup, j'étais dans des compagnies amateurs, comme on est dans des villages, on fait du théâtre avec le plaisir qu'on a à rentrer dans des personnages, à jouer des rôles, et encore une fois, je pars d'un endroit où ça me fascinait comme un jeu qui permettait d'être plein d'autres gens que ceux que je croisais, que tout d'un coup un monde s'ouvre à soi.
En Touraine.
C'était en Touraine, dans ma pas loin du village où j'habitais. J'ai commencé à en faire là-bas. Et puis, je devais avoir 16 ans, 17 ans. J'ai entendu parler après d'écoles de théâtre qui faisaient du coup des... On pouvait passer des concours pour devenir comédienne, mais j'aurais même pas pensé qu'il y avait des écoles où on pouvait rentrer pour faire ces métiers. Je pensais pas que c'était un métier, au fond, c'est ça. Et du coup, là, j'ai passé des concours et j'ai eu celui de la rue Blanche. Bon, voilà, je suis rentrée au fond d'une façon assez classique, mais voilà, avec ma mère était très, au fond, a dit oui à tout ça, c'était pas rien. Ça veut dire aussi qu'on nous permet d'aller vers ça alors qu'on est bien loin de tout ça au départ. Du coup, ça m'a ouvert tout un monde. Je suis partie à Paris, etc. Et j'ai commencé.
Vous êtes montée à Paris, enfin descendue.
Voilà, je suis montée à Paris pendant 3 ans. J'ai travaillé et la dernière année, j'ai rencontré François Cervantes qui créait une compagnie qui allait s'installer en Corrèze. Et son travail, je passais une audition, son travail était vraiment un travail de troupe, ça me passionnait, mais on n'était pas encore dans le clown à ce moment-là, et puis il était auteur, donc il y avait tout un rapport à son écriture aussi dans ce qu'on faisait sur le plateau, et je suis arrivée comme ça, mais c'est par le biais au départ d'un concours d'école que j'ai réussi.
C'est marrant parce que alors là vous avez un micro, il faut le dire quand même, parce qu'on est à la radio, où il y a une bonnette rouge qui ressemble très fortement à un nez rouge,
ouais,
de clown. C'était,
ouais,
vraiment pas voulu, Catherine Germain, je suis sûre. Quand on pense à clown, je pense on a souvent un imaginaire de, vous l'avez dit, de troupe, de caravane, de voyage sur la route. C'est une sorte d'imaginaire un peu, parce que c'en est un, même si ça se fonde sur des réalités. Si je vous écoute, là, vous n'êtes pas du tout rentrée dans le théâtre par la caravane, quoi. Est-ce que vous l'avez prise après?
Non, j'ai pas pris la caravane, je suis pas,
parce que là c'est pour le coup,
c'est, oui, puis c'est une image, et puis après c'est une chose concrète quand on est dans le monde du cirque, c'est pas le monde que j'ai côtoyé au fond, même si depuis je rencontre beaucoup de gens de cirque avec lesquels je travaille ou que je croise sur ma route, mais j'ai réellement pris le chemin du théâtre et des salles en dur et des gradins et des gens dans le noir qui passent leur vie à être dans les projecteurs, et j'ai plutôt connu ça, donc non, l'imaginaire est tout ce monde-là, au fond, je ne l'ai pas connu du tout et je ne le connais pas. Je ne le connais pas vraiment.
Vous auriez envie de le connaître ou vous auriez envie ou pas nécessairement.
C'est-à-dire que, en tout cas... La question
de la troupe, si, bien sûr.
Ah ben, je l'ai toujours vécu, bien en sûr. Fait. Ouais. J'ai plutôt vécu dans un travail d'équipe, de troupe. C'est comme ça, même à l'école où j'ai appris mon métier, puisque c'était la rue Blanche et que c'était une école, pardon, où il y avait tous les domaines de ces métiers autour de... Ça pouvait être les éclairagistes, ça pouvait être les gens autour du son, le décor, les costumes, etc., les comédiens. Et c'était fascinant de pouvoir créer, quand on a 18, 19 ans, dans cet esprit-là. Ça m'est resté très fort. Donc, je considère que je suis tombée dans l'endroit où déjà, la notion d'équipe, pour moi, elle m'a aussi... quand j'ai rencontré François, c'était d'un projet comme ça dont il s'agissait. Au fond, c'est ça qui m'a aussi tentée.
Quand on entend la clown Elsa Maigne qui a parlé de vous, qui vous a dit merci, elle parle justement du livre que vous avez écrit, coécrit, coédité, édité, oui, avec François Cervantes. Quand on lit un petit peu l'intitulé, vous savez, classique, on dit la rencontre d'une actrice avec un auteur. C'est plus que ça quand même, non? Puisqu'on parle de cette fameuse rencontre avec le Cervantes, puis l'entreprise, puis bon, et tout ce qui fait ce que vous êtes, Catherine Germain, c'est plus que ça, non? Cet ouvrage.
Oui, c'est plus. Enfin, je ne sais pas comment dire si c'est plus ou si c'est ça. C'est en tout cas, on a eu envie de faire le livre avec François parce que beaucoup de gens nous posaient la question de mais d'où sort ce travail? Qu'est-ce que c'est? On a eu besoin pour un peu aussi transmettre aux gens, plutôt que de leur expliquer en sortant d'un spectacle, de refaire un peu le point sur. comment on est tombé là-dedans. Et encore une fois, c'est peut-être ce qui nous rassemble aussi beaucoup avec François et dans les conversations qu'on a encore artistiquement aujourd'hui sur un plateau, c'est qu'on a découvert les choses ensemble sans se dire qu'il y avait derrière tout un académisme ou des choses qu'on allait reporter sur le plateau. C'était le langage du clown, il s'appelait même pas clown à l'époque. Pour lui, le premier spectacle, ça s'appelle La curiosité des anges. C'était cette notion d'être qui allait s'incarner et devenir. Alors, ils avaient l'apparence de clown, mais tout ça, au fond, a fait que notre virginité a fait qu'on a défriché un terrain. Et cette joie de défricher un terrain, c'est encore ce qui nous lie aujourd'hui dans le fait de traverser les formes ou les langages en les revisitant, enfin du coup en se les réappropriant, mais en les recréant.
Il y a une personne à qui vous revenez toujours quand même, Catherine Germain. Celle qu'on a entendue dans le générique de l'instant 2. Ah, Barbara,
ah ben j'y reviens, je ne sais pas si j'y reviens, mais c'est une personne qui, quand je me prépare, justement, dans les moments où je suis en tournée, que je vais jouer, j'écoute très souvent des chansons de Barbara.
Bah, écoutons une petite cantate alors, et oui, juste du bout des doigts, hein, c'est tout.
Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate comme nous jouions autrefois, seule je la joue maladroite, similaire et sans le dauphin. Cette petite cantate, force le dauphin, n'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes courent et faciles, heureuses au bout de tes doigts. Moi j'étais la malhabile, similaire et sans le dauphin. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà, et je reste malhabile face à le dauphin. Je te revois souriante, assise à ce piano-là, disant bon je joue, toi chante, chante, chante là pour moi. Similaire, similaire, si sans le dauphin. Similaire, similaire, si sans le dauphin. Oh mon ami, oh ma douce, oh ma si petite à moi. Mon Dieu, qu'elle est difficile, cette cantate sans toi. Une petite prière, la 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 la, avec mon cœur pour la faire, et mes dix doigts. Une petite prière, mais sans un signe de croix. Quelle offense, Dieu le Père, il me le pardonnera. Similaire, similaire, si sale dauphin. Similaire, similaire, si sale dauphin. Les anges avec leurs trompettes la joueront pour toi. Cette petite cantate que nous jouions autrefois. Les anges avec leurs trompettes la joueront pour toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Similaire, similaire, si.
Bon, on sourit avec Catherine Germain en même temps, je sais pas pourquoi. Ça doit être la fatigue, vous êtes dans l'instant 2 sur Radio Grenouille. Catherine Germain, c'est votre choix, premier choix de chanson quand même. Parce qu'on vous demande de choisir des chansons en plus dans l'instant 2.
Oui, oui, bah je suis très heureuse d'entendre, de réentendre, de ne jamais me lasser de justement de ces ritournelles et de cette profondeur dans la légèreté, mais c'est tellement profond ce qu'elle dit.
Il y a peu de gens qui connaissent l'histoire de cette chanson d'ailleurs, qui est tragique.
Oui, c'est ça, oui, parce que c'est effectivement, je crois, son ami est pianiste qui a eu un accident et dont elle a appris la mort. Et
Un concert, je crois, même à l'Écluse ou quelque chose comme ça.
Et elle a composé cette chanson pour elle. Et elle le chantait, donc après, elle a dû la chanter même souvent, mais en hommage à cette femme.
Comment on peut expliquer la légèreté de la musique et le côté un peu enjoué hein, de la musique de cette chanson de Barbara et le texte qui... C'est comme s'il n'y avait pas de lourdeur, malgré l'aspect tragique de l'histoire de cette chanson. Est-ce que créer le décalage, c'est aussi souvent ce que vous essayez de faire dans vos spectacles ?
Non, c'est qu'elle peut pas faire autrement. Je pense pas qu'elle. Je crois que c'est une personne qui chante cette voix qu'elle avait si cristalline.
J'ai toujours l'impression qu'elle est là.
C'est une voix qui, dans les événements qu'elle relate, dont elle parle, elle a cette voix. C'est une vibration et c'est une vibration qui est vraiment pour moi Oui, elle a de la légèreté, mais elle a réussi à se séparer de ce qu'elle chante. C'est une façon de se séparer de ce qu'elle chante. Et je pense que c'est...
On l'entend même sourire. Hein,
oui, comme si, du coup, ça ouvre la porte pour que tous ceux qui l'entendent ne soient pas... Elle n'accable pas de sa tristesse les autres. Elle a transformé, transfiguré cette tristesse ou cette douleur, ou, enfin, après, ça ne nous regarde pas, en une œuvre. Et alors ça, je trouve ça magnifique.
Est-ce que ça, cet aspect-là vous inspire aussi? Enfin, non, le clown, il y a quand même quelque chose de... On a le clown triste, le clown joyeux, puis on a des clowns qui mélangent tous ces sentiments-là. Et sur scène, vous l'avez dit, on parlait de métamorphose. Donc on peut dépasser une émotion pour amener le public vers une autre. Et tout ça, c'est du mouvement. Est-ce qu'on fait ça aussi quand on est clown?
Mais en fait, clown, c'est un mot qui du coup fait peur, parce que ça, on aurait tendance à dire c'est un personnage, il est comme ça, justement, comme on dit tout à l'heure, il sort d'un imaginaire et tout ça. Et je crois pas. Ce qu'on appelle clown, et je sais pas comment on pourrait l'appeler, alors qui
ferait qu'on... Comment vous l'appelleriez autrement, justement?
Je sais pas, c'est comme un... Je trouve ça assez beau, du coup, ce que dit François, un poème, parce que c'est vrai, ou une musique, ou en tout cas, c'est quelque chose de beaucoup plus mobile, mouvant, que ce qu'on veut bien mettre comme appellation derrière, c'est-à-dire c'est vraiment un mouvement de l'âme, de l'être, du cœur. Donc c'est quelque chose qui est en gestation et qui ne se tient pas droit et qui n'a pas de limite, mais qui oscille, oui, qui oscille et qui passe de toutes sortes de sentiments en une seconde, enfin.
Votre personnage Arletty, depuis 1987, il évolue aussi beaucoup. Il oscille beaucoup.
Oui, il oscille beaucoup, mais il oscille pour moi, oui, avec le fait que la vie bouge sur moi, bien sûr, avec les événements de tout ce qui a lieu, mais aussi parce que dans une soirée, c'est l'espace d'une vie. Il se passe du début à la fin tellement de choses. Et ça, c'est une...
Qu'est-ce qui se passe un soir, par exemple, pour le... On parle du sixième jour, on va rester sur Arletty, puisqu'on y est, si elle veut bien, hein. Oui. Pas non plus l'écraser. Mais qu'est-ce qui se passe, justement, qui peut faire changer un soir, ou évoluer, ou faire osciller ce personnage d'Arletty? Qu'est-ce qui se passe dans la salle? Qu'est-ce qui peut se passer en vous? Enfin,
mais tout, mais même si c'est a priori la même chose que la veille... C'est que c'est jamais la même chose que la veille, au sens ça ressemble à la même chose que la veille, au sens il y a des spectateurs, tout le contexte est le même, le texte est le même, le déroulé
le
est le même.
Le rythme aussi, hein, non?
Mais alors non, l'atmosphère ou l'écoute de ce à peu près pareil est totalement mis en question, parce que c'est ce qui fait la conférence. Elle est en train d'écouter quelque chose qui vibre à l'intérieur d'elle comme une nouveauté. Elle n'a jamais été conférencière. Et moi, je prends vraiment au pied de la lettre, dans le travail du clown, cette chose qui est, on est en déséquilibre, on est profondément en déséquilibre quand on rentre, et c'est ce déséquilibre qui fait arriver toutes les pensées des gens, même si on ne les entend pas de façon audible, mais on entend une salle silencieuse. On comprend presque parfois des choses toutes petites dans un silence. Et c'est assez savoureux de traduire, d'entendre petit à petit des choses que les gens pensaient ne pas transmettre, mais qu'on entend. Quand on est comédien, on entend des choses.
Au point de s'asseoir après sur les genoux du public, mais ça, c'est une autre histoire. Mais...
Oui, ça, c'est une envie récurrente.
Une envie irrépressible.
Récurrente.
Qui surprend souvent les spectateurs. Est-ce que vous avez... Déjà, Catherine, dans ce spectacle, par exemple, était si fragile que vous en êtes tombée de cette ligne, de ce fil sur lequel, comme ça, vous êtes en équilibre volontairement pour créer un spectacle qui est magnifique. Mais hop, est-ce qu'il y a un moment où...
Mais je pense que je le suis très souvent. Si ça ne se voit pas, ou si ça se pose comme ça en termes de questions, c'est que ça fait partie du travail. Je dois accepter. C'est comme ça. Je prends tout ce qui arrive dans l'instant pour en faire... mon miel, parce que Si je me mets à tricher en esquivant un problème, tout perd de sa saveur. Donc c'est à la fois des instants où je vois bien que j'ai été trop vite à un endroit ou quelque chose s'est passé, mais il faut que ça prenne du sens. Cette chose-là, de toute façon, fait partie de la soirée. Donc du coup, ça réconcilie aussi avec le fait que tout doit faire sens dans le moment où je suis rentrée.
Tout ce qui se passe, un rire trop fort, un rire absent, des larmes.
Ah oui, mais des fois, c'est
des larmes qui jaillissent parce que c'est ce que vous provoquez. Vous en êtes, je pense, consciente.
En tout cas, des fois, c'est oui, il se passe des choses des fois d'un ordre particulier, mais on doit faire avec l'entièreté de ses réactions et des fois même d'un truc qui nous rend un peu mécontent à l'intérieur, on doit faire aussi avec.
Ouais. C'est un métier de... On dit souvent que c'est un métier de saltimbanque, mais pas seulement le vôtre, c'est d'arriver à... Voilà, à jouer sur ce fil-là, sans jamais en tomber. Vraiment jamais, vous avez jamais ressenti un moment où j'ai dit, quand vous faites la pause, par exemple, Arletty, pas vous.
Ah si, mais je pense que je tombe en permanence, justement. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est...
Au point de ne pas re-rentrer sur scène, ça jamais.
Ah bah, de ne pas rentrer sur scène, non, je ne vois pas pourquoi je ne rentrerai pas sur scène, et ne serait-ce que pour le public. Enfin, je rentre sur scène, c'est écrit, je rentre sur scène, je suis assez...
T'as un contrat, presque,
j'ai un contrat,
immatériel,
moi, j'ai un
qu'on passe avec
le public.
Public,
je rentre sur scène, je reviens sur scène, si je suis en morceaux, je suis en morceaux, mais je reviens sur scène.
Et j'en sors quand la pièce est finie.
Et j'en sors quand la pièce est finie, mais j'en sors justement avec tout ce qui se sera passé. On partage dans une soirée des tas de sensations, des tas de pensées, des tas de... Mais ça fait partie, alors là, ô combien du métier, c'est pas du tout...
C'est ce qui est beau.
C'est la réalité de ce choix de mise en lumière, de mise en perspective. Voilà, s'il y en a qui ne le choisissent pas, je comprends très bien.
Vous leur dites quoi, ceux qui...
Mais il faut vraiment le vouloir, quoi. Il faut vraiment le vouloir. Hein. Il faut vraiment aimer à la fois cette reconstruction, parce que je parle de ça en disant c'est une façon de se rassembler, mais en même temps c'est de la désagrégation. Enfin, je veux dire, c'est une explosion quand même. C'est pas, on rentre pas comme ça, comme dans du beurre, et tout va bien se passer. Ouais. C'est une terreur et un désir mélangés.
C'est souvent ce que ressent le public. Pareillement, quand on sort du sixième jour, et c'est souvent parce que vous avez je sais pas si c'est la douceur, en tout cas l'authenticité comme ça, sans phare, de sortir et de parler aussi beaucoup avec le public quand vous vous démaquillez. Alors ça, bon, on n'enlève pas que le maquillage, j'imagine, oui. Qu'on enlève tout le costume et toutes les pensées, peut-être. Vous gardez toutes ces pensées?
Non, je les garde, parce qu'elles m'ont traversée, elles sont encore là. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, je me démaquille assez vite.
Oui. C'est étonnant, d'ailleurs.
Très, très vite, je me démaquille. Je mets du temps à me maquiller, c'est très minutieux, c'est très précautionneux. Et le temps du maquillage, pour moi, est un réel temps de mise en lien avec cette créature. Je suis absolument menée par ce chemin.
Combien de temps vous mettez pour vous maquiller comme ça?
Maintenant, ça dure 3/4 d'heure, mais avant, ça durait 1 heure. Mais avant, je prends du temps avant de me maquiller aussi. Mais ce moment du maquillage est vraiment un temps entier et totalement indispensable pour moi.
Et pour elle, Arletty?
Mais elle
attend.
Ce qui est curieux, c'est qu'elle vient certains soirs, peut-être, parce qu'on n'est pas toujours... elle vient certains soirs, elle est là, a priori, visiblement, les spectateurs voient un clown. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au mieux, je pense qu'il y a des fois ce qu'on appelle l'état de grâce, où on a la sensation qu'on est vraiment habité par un être intérieur. C'est-à-dire, on sent qu'il se passe un truc qui, même au-delà du spectateur et de nous-mêmes, est arrivé, quoi. Ça nous met en joie, parce que quelque chose se met en jeu. Mais le reste du temps, c'est comme un travail de musicien. On travaille d'un instrument, des fois la musique est plus ou moins élevée. Et on pourrait dire que des fois, Arletty est plus ou moins présente à l'instant de travail qui se passe durant une soirée de théâtre.
On avait envie de vous offrir un état de grâce en fort d'essai dans l'instant 2, humblement. On fait souvent une surprise à l'invité, parce que c'est important, les surprises. Il n'y a pas que les clowns qui aiment ça, il n'y a pas que les enfants. C'est super important. Vous aimez les surprises?
Oui, allons-y.
Les bonnes surprises, en général.
Ouais.
Ce que vous décrivez, cet état de grâce-là, il y a une personne qui a vu un certain nombre de fois vos spectacles, et précisément le sixième jour, et qui le ressent, cet état de grâce, pas de la même manière quand elle sort de vos spectacles, Catherine Germain, mais en tout cas, elle l'a. Et en fait, elle voulait parler de vous comme si c'était la première fois. Elle voulait juste vous parler. On va l'écouter. D'accord. C'est la surprise de l'instant 2 avec Catherine Germain depuis la Friche Belle de Mai à Marseille et depuis les studios de la compagnie, l'entreprise. Presque sur une scène de théâtre. Presque.
Parlez-moi d'elle.
Instant 2.
Comme si c'était la première fois.
Catherine Germain, la première fois, c'est au moment des friches, des systèmes friches à Marseille, en 1995, je crois, quelque chose comme ça. Et on me parle d'un spectacle de clown. Et donc je vais voir ce spectacle. Ça se passe dans un grand camion, avec une scène qui se déplie. Alors déjà, c'est un peu atypique comme installation. Et arrive ce petit personnage qui vient jusqu'à nous, comme ça, et qui me bouleverse. Vraiment, une rencontre complètement, presque charnelle, avec ce personnage. Je dis personnage parce que Arletty, c'est vraiment le clown. Je vois pas la personne derrière, en fait. Je vois pas l'actrice. Et puis, il rejoue quelques années plus tard, et j'y retourne. Et en fait, je suis complètement obsessionnelle avec ce personnage. Je retourne tous les soirs, comme si j'avais un rendez-vous amoureux. Et c'est avec la même joie que si David Bowie, en Ziggy Stardust, venait dans ma classe, en CM2, vous voyez, comme ça. Mais c'est moi qui viens voir, voilà. Ça devient complètement personnel. Et puis moi, ça me met un tel engouement que il faut que j'emmène tous mes amis. Il faut que je partage quand même ces moments avec Arletty, le clown. Et puis, on me parle du premier spectacle, La curiosité des anges. Donc j'ai envie de connaître sa vie, en fait. Je vais rencontrer Arletty. Et ça, c'est magique. C'est-à-dire qu'on peut la découvrir dans La curiosité des anges, puis plus tard dans Les clowns et dans Carnage, etc. Et puis donc je la suis dans ce personnage. Donc il y a un moment, je vais à sa rencontre, évidemment. Quand j'étais petite, ma mère, elle arrêtait pas de me dire « arrête de faire le clown ». Et en fait, je m'arrêtais pas. Dès que j'étais seule, je faisais le clown, en fait, pour moi toute seule. Et là, ce qui m'a profondément bouleversée aussi, c'est que quand je te vois faire le clown, Catherine, déjà, je me retrouve, moi. Mais c'est surtout que tu as un public. Et moi, je te vois étonnée de mon rire, de nos rires. Et ça, c'est incroyable. Parce que moi, je l'inventais, le public. Et là, tout d'un coup, je comprends ça. On peut se faire rire tout seul aussi. Et voilà. Et ça m'a permis de retrouver ce petit clown qui était tout seul dans sa chambre. Voilà, tu me l'as redonné. Ça, c'est un beau cadeau. Et puis un jour, tu m'as fait un beau cadeau aussi. Tu m'as dit, après que j'ai vu pratiquement une vingtaine de fois le sixième jour quand même, tu m'as dit, de toute façon, j'attends d'entendre le bruit de ta moto pour démarrer le spectacle. Voilà, ça, c'était l'impression que tu m'as constaté. Enfin. Que ce soit clown ou personne. Voilà. Un grand merci à Catherine Germain.
Parlez-moi d'elle.
Instant 2.
Comme si c'était la première fois.
Eh ben, c'est très beau. Et je connais la personne qui le dit. Donc, oui, ça me touche beaucoup.
C'est qui?
c'est Fred, enfin, je c'est pas son nom de famille, il faut le faire.
C'est ça qui est fabuleux.
Et c'est quelqu'un que je connais Fred depuis Florent. Longtemps. Ouais. Je la connais depuis longtemps et c'est vrai qu'il y a petit à petit quelque chose qui se crée aussi avec le public. Et c'est pas pour qu'il reste un public pour moi, c'est aussi des gens qui s'approchent du théâtre d'une manière... voilà, où on dépasse aussi la notion du théâtre. On est à la fois pris intérieurement et ça compte pour nous, mais on rencontre des gens qui nous marquent pour longtemps. Ça me...
Fred, très ému dans les rues de Marseille, c'était il y a quelques jours, et vous entendez le tram marseillais d'ailleurs, hein, vous l'avez peut-être entendu en fond, l'a laissé parce qu'on trouvait qu'il était sympa. Ouais, très ému, hein, c'est quand même beau d'entendre Fred qui est la voix finalement de... beaucoup d'autres personnes qui ont vu plusieurs fois ou pas vos spectacles, et Arletty, ce fameux fil qui revient comme ça, qui est là, hein, depuis le début de l'émission. Tu as ou vous avez réveillé le petit clown qui était en moi et seul dans sa chambre. C'est pas rien ça quand même, non?
C'est énorme. Enfin, c'est énorme, mais en même temps, c'est aussi ce que chacun est prêt à faire. C'est pas que moi, certes, je viens avec un clown comme celui-là toucher quelque chose chez la personne dans le public, mais cette personne-là, si elle reçoit ça, c'est qu'elle est prête à le recevoir. Il faut des déclencheurs pour que quelque chose ait lieu. C'est pas ça ne tient pas que par le fait que quelque chose est présenté sur une scène. C'est que ça réveille effectivement parce que l'autre est prêt à être réveillé. Donc ça se passe aussi dans ce sens-là.
Ça sert à ça, d'abord, le théâtre. Réveiller, nous réveiller, se réveiller.
Je pense qu'on vient quand même, dans une salle de spectacle pour, c'est pas vérifier qu'on y est, mais vérifier que les pensées, les pensées qu'on y reçoit rentrent en contact avec quelque chose qu'on n'arrivait pas à nommer c'est un peu, pour moi, c'est un peu comme rentrer dans une bibliothèque. Une bibliothèque, ça fait peur parce qu'il y a 10 000 ouvrages devant nous et on ne sait pas lequel choisir. Et puis on s'avance petit à petit et il y a des livres qui nous sautent aux yeux plus que d'autres. S'ils nous sautent aux yeux et qu'on les prend, ça veut bien dire qu'on était prêt à choisir ceux-là. Mais c'est un peu ça ce qui se passe au théâtre, c'est qu'il y a des moments où on rentre comme ça dans un monde, mais il y a quelque chose qui nous parvient parce que c'était juste à portée de nous.
Fallait-il encore se dire je l'attrape.
Ouais, par contre, il faut y aller au théâtre. C'est-à-dire que autant là, on va et on rencontre du public qui vient assez facilement au théâtre, mais on aimerait qu'il y ait des gens qui viennent aussi au théâtre, vraiment au moins passer la porte du théâtre pour après avoir ce genre de bonnes surprises avec eux-mêmes. Mais ça, c'est encore tout un travail.
Bon, on espère que cette émission donnera envie de passer encore plus la porte du théâtre, de l'entreprise, de la compagnie de François Cervantes, de vos spectacles aussi, Catherine Germain. Quoi qu'il en soit, tiens, on va attraper un livre, parce que dans l'instant 2, on demande aussi à nos invités de faire un choix. Et on leur demande du boulot à nos invités quand même. En même temps, vous avez du retour aussi. Tiens, il y a même des surprises dans les dossiers, tout ça.
Il faut pas que je plaigne, c'est ça que je vais
dire. Pas ça du tout. Dis donc. On vous maltraite dans l'instant 2 quand même. Vous avez choisi quoi? De nous lire quoi, Catherine Germain?
Alors, j'ai choisi de vous lire un passage de Christian Bobin qui s'appelle « La part manquante ». Et c'est un passage d'une des nouvelles qui s'appelle « La baleine aux yeux verts ». Je vais vous le lire.
Magnifique, Christian Bobin. On vous écoute.
Ça commence comme ça. Ça commence toujours comme ça. C'est par les livres que ça commence. Les premiers livres. Les premières nuits miraculées de lire, les yeux rougis, le cœur battant. La lecture intervient très tard dans la vie, vers les 6-7 ans, après la fin de l'éternel. Avant de savoir lire, on écoute les voix qui épellent le monde, la voix des proches, le murmure de l'eau vive sur les sables du sang. La lecture suscite une absence qui ramène vers cette prime enfance. Au bord de cet amour, qui à jamais manquera de mots. On est derrière la porte du livre. On écoute une voix si claire que l'on retient son souffle pour bien l'entendre. On écoute la voix calme dans la nuit noire, comme une parole sans phrase dans laquelle un chagrin s'endort peu à peu d'un sommeil inavouable, bienheureux. On a un âge, on a un nom, on a une vie qui vous attend. Elle n'est pas faite pour vous, elle n'est faite pour personne. Elle vous attend. À 8 ans, on devine très bien ces choses-là et qu'il faudra choisir. Choisir Dieu ou le vide, le travail ou le chômage, le désespoir ou l'ennui, choisir. Seulement voilà, on a trouvé autre chose. On a trouvé les livres. Avec les livres, on ne choisit plus. On reçoit tout. La lecture, c'est la vie sans contraire, c'est la vie épargnée. On lit sous les draps, on lit sous le jour. C'est comme une résistance, une lecture clandestine, une lecture plein de vent. À 8 ans, on aime les îles, les trésors et les forêts. La baleine blanche aussi. La baleine immaculée des eaux bleues nuit. Celui qui l'aime désire la tuer. C'est un marin. Il la cherche pour la tuer. Il la cherche partout dans le monde. Les enfants sont comme les marins. Où que se portent leurs yeux, partout, c'est l'immense. On s'avance dans le livre jusqu'à l'histoire profonde. On s'enterre au plus clair de sa vie sous des pelletées de phrases noires. Parfois, on lève la tête, on regarde au dehors. On voit la ville, on voit l'école. On dit « c'est le désert », on voit que c'est le désert. Alors on revient au livre, à la baleine blanche. Elle est blanche comme de l'encre. Elle est blanche comme du sang. On passe des hivers dans la chambre de lecture. Des saisons éternelles, des soirées et des pensées comme de l'or. On jette les mots par la fenêtre. C'est incroyable, il en vient toujours plus. On lit sans ordre, sans raison. La lecture ne peut se commander. Personne ne peut en décider à votre place. Il en va de la lecture comme d'un amour ou du beau temps. Personne, ni vous, n'y pouvait rien. On lit avec ce qu'on est. On lit ce qu'on est. Lire, c'est s'apprendre soi-même à la maternelle du sang. C'est apprendre qui l'on est d'une connaissance inoubliable, par soi seul inventée.
Steel I won, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. But nothing comes from violence. Nothing ever could, for all I was born beneath an angry star. Lest we forget how fragile we are. Thank you.
On vient d'entendre Catherine Germain, c'était pas Catherine Germain, c'était Sting qu'on vient d'entendre. Fragile, c'est le choix de Catherine Germain, invitée de l'instant de ce mois-ci. Et juste avant, vous avez lu Christian Bobin, La part manquante, c'était très beau, c'était notamment sur la lecture. On peut l'interpréter comme ça, et la beauté de lire, mais pas que. D'ailleurs, pourquoi vous avez choisi ce texte-là, d'abord, Catherine ?
Mais c'est, pour moi, c'est lire les livres partout où il y a... C'est lire le monde plus que uniquement les livres quand je lis ce texte. Donc c'est vrai qu'il y a un âge avant que nous arrive quoi que ce soit, qu'on nous ait dicté quoi que ce soit, qu'on nous ait indiqué la vie à prendre là devant nous,
le
comme
chemin.
Il dit, le chemin. Il y a quelque chose qui est dans l'enfance terriblement, qui capte le monde, qui le dévore des yeux, qui le prend, qu'il décrypte, chacun le décrypte, et c'est vrai qu'à la fin d'une journée d'enfant, le soir, tout petit, on est ivre, on est fatigué d'avoir reçu tout le monde, c'est-à-dire on est fatigué d'avoir eu tant de perceptions, de sensations, parce qu'on a mangé.
Ce beau regard dans le vide d'un enfant le soir.
Oui, il y a quelque chose.
Le vide ne fait pas peur, enfin. Ne fait presque plus peur.
En tout cas, il y a quelque chose qui s'est pris de plein fouet, quoi, comme une grande vague, et il y a effectivement beaucoup de choses qui ont été une porosité du monde. Et pour moi, c'est une forme de lecture. C'est ça la lecture. Et c'est avant qu'on nous embête en nous donnant ou du sens ou un sens préalable, nous expliquant des fois beaucoup les choses. C'est avant qu'on nous explique. C'est avant qu'on nous donne des directives. C'est un peu comme ça que nous a guidé François sur le clown au départ, c'est de cet être qui était là avant que l'éducation arrive même. Donc cet être premier, comment il était lui dans sa sauvagerie originelle, comment il allait faire son chemin. Après le chemin, il est effectivement repris en charge par beaucoup d'autres gens. Lui-même.
C'est vrai. C'est ce moment-là, justement, quand vous écrivez, parce que vous écrivez beaucoup ensemble aussi. Hein,
Il y a vraiment que le sixième jour qu'on a écrit. Après, il y a eu d'autres.
C'est le seul spectacle.
C'est le seul spectacle qu'on a écrit après.
Vous avez mis votre plume un petit peu.
Oui,
ça.
Où j'ai mis la plume avec François. Mais sinon, les autres spectacles, on peut dire coécrits dans la mesure où il y a eu beaucoup et des temps longs d'improvisation et que François en a capté après pour l'écriture. Toutes les sens, mais le sixième jour, c'est différent. C'est le seul qui est différent dans la conception.
C'est comme ça, en tout cas, que vous recevez avec ce regard d'enfant. Vous essayez d'en être toujours proche, comme ça, pour prendre, lire partout, lire des livres, lire des mots sur les murs, lire des murs sans mots dessus.
Oui, et puis quand on dit...
Pour préparer vos spectacles, par
quand
exemple.
On dit lire, c'est aussi... même lire l'absence de livres. Parce que j'étais dans un milieu, moi, où je n'avais pas forcément des livres. Je lisais les feuilles des saules pleureurs, je lisais la nature, à même ce que j'avais sous les yeux, de façon très... Je lisais, j'avais des temps d'ennui très grands, mais d'ennui comme on n'en a plus beaucoup maintenant dans l'enfance.
C'est dur de s'ennuyer aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'on nous blinde le temps, tout est rempli à bloc.
Il faut décider de s'ennuyer.
Il faut des activités. Alors aujourd'hui. Maintenant, il faut prendre des rendez-vous avec son ennui, mais je veux dire, quand on était... voilà, j'ai plus l'impression d'avoir navigué dans d'avoir été plongé dans une solitude, au fond, en étant enfant, pas du tout malheureuse, une solitude, avoir des temps à moi, et dans cette solitude, de construire un monde, de travailler à ma propre... d'avoir un petit atelier où, je sais pas, où mon imaginaire pouvait se balader. Et je n'étais pas prise par quelqu'un qui allait me dire ce qui était mieux pour moi, ou voilà, fais ça. Et j'étais à la campagne aussi. Alors, peut-être le contexte faisait qu'on me laissait... j'étais livrée à moi-même dans la nature aussi.
Pas seule, errante, mais poétiquement errante.
Non, mais ce que je veux dire, voilà...
On ne vous laissait pas comme le petit poussé.
Non, dans
la forêt.
J'avais à manger le soir, je dormais dans une maison. Ce que je veux dire, c'est que ce temps de... Oui, où on laisse l'enfant grandir aussi. J'ai eu l'impression, en tout cas, que mes parents m'ont donné cet épanouissement-là, en tout cas.
Ils venaient vous voir où ils viennent, ou ils venaient vous voir où...
Ma maman venait. Mon père n'a pas pu voir quand je suis devenue comédienne. Il était parti avant, mais ma mère est longtemps venue. Oui.
Et la première fois alors ?
Oui. Elle était très. Elle a très, très, enfin, vraiment très souvent suivi le travail. Elle était très touchée parce qu'elle reconnaissait beaucoup de choses de moi quand j'étais toute petite. Donc, il paraît que les premiers temps, même, elle rougissait. Elle avait l'impression que ça passait à travers quelque chose qu'elle connaissait tellement que ça lui remontait. Mais après, elle m'a vraiment vue comme quelqu'un d'autre que sa fille. Donc, vraiment, c'est-à-dire que, pour le coup, ça, c'est le cadeau. Le moment où, je pense, quelqu'un ne nous voit plus comme son enfant, mais voit quelqu'un en face qui est en train de... Ben oui, de faire son chemin, c'est-à-dire d'avoir une autre naissance, une deuxième naissance en tout
avec
cas.
Avec sa propre lecture des feuilles,
voilà,
des sols pleureurs, par exemple.
Et puis du coup, de donner de l'émotion forcément à cette personne qui nous a mis au monde de façon...
presque distanciée et pas du tout en même temps.
Mais c'est très touchant, ouais, de partager ça en tout cas avec la personne qui vous a mis au monde, ouais.
Elle était exigeante, elle était exigeante avec vous, dire oui, là, Catherine, c'était pas terrible ce spectacle, ou là, dis donc, moi je ferais plus ça, elle était en retrait.
Non, parce qu'elle se serait jamais permise, elle faisait partie, beaucoup de gens qui n'osent pas, qui se disent qu'ils ne sont pas autorisés à dire quoi que ce soit, qui se sentent pas du théâtre, donc elle m'aurait jamais dit ça, non, mais... Non, parce que c'est immédiatement, ça lui faisait remonter des souvenirs ou dire des choses. C'est jamais sur de la façon de jouer ou sur le lieu même du théâtre. C'est ce que ça raconte qui immédiatement fait sens pour elle.
Le personnage d'Arletty, le clown ou d'autres
spectacles ? Non, d'autres choses. Elle m'a jamais dit des choses sur mon jeu de comédienne, jamais. J'ai jamais entendu dire là-dessus, non. C'est qu'elle prenait les histoires réellement, quoi. Elle le prenait de plein fouet. Se dit, ah, ça raconte ça, ou le récit rentre tout de suite. Et c'est assez simple, enfin, du coup. Mais elle me voyait quand même comme sa fille, donc elle avait peur que je trébuche sur le plateau. Mais comme on se dit quand on ne connaît pas ses métiers, mais vous avez de la mémoire, comment vous faites? Est-ce que vous n'allez pas vous tromper? C'est plutôt ça dont elle avait peur.
Ou est-ce que vous allez manger à la fin du mois?
mais pas en tant que jeu d'acteur à regarder si je fais ça bien ou pas. Simplement qu'elle ne voulait pas que je perde mon texte. Elle aurait eu trop peur pour moi.
D'inquiétude de maman.
Oui.
Plutôt.
De se dire, dis donc. Comment on fait? Je ne peux pas l'aider. Je ne vais pas pouvoir l'aider.
Je ne peux pas la souffler. Je ne peux pas être souffleuse.
Mais voilà, ça c'est juste...
Non, c'est beau. C'est un joli souvenir. En tout cas, c'est beau. J'imagine que beaucoup de comédiens et de comédiennes se posent la question du rapport aux parents quand on fait ce métier.
Quand ils viennent nous voir, oui, c'est pas facile. C'est un beau voyage, c'est une belle boucle. C'est un beau rassemblement des mondes en soi, de faire venir ceux qui nous ont mis au monde, bien sûr.
On peut aussi, dans vos spectacles, entendre la musique. C'est important, ça, quand même, la musique, dans les spectacles, au théâtre aussi en général. Mais on a entendu, quand Fred a parlé de vous, comme si c'était la première fois la Strada, Nino Rota. Ça aussi. Pourquoi vous avez choisi Sting, Fragile? Cette chanson pour, vous évoque quelque chose, Catherine Germain, ou pas du tout?
Si, pour la voix de Sting. J'adore sa voix, son timbre, sa fréquence sonore, le grain. Et pour ce que ça raconte, pour cet état...
D'avoir le droit d'être fragile.
D'avoir le droit, et puis de dans cet endroit-là, tout ce qui peut passer, et ce que je disais tout à l'heure par rapport au travail qu'on fait quand on est sur scène par rapport au clown, c'est pas qu'on se rend fragile, mais c'est que la fragilité est une force pour le peu qu'on la lise, enfin, qu'on l'avoue et qu'on la... on la met pas de côté, elle fait partie de l'ensemble et elle a tout lieu d'être là et effectivement, elle fait écho chez chacun.
Soyons fragiles, alors.
C'est pas du tout un
comment laissons-nous dire... un slogan.
C'est pas un slogan quoi, ouais.
Laissons-nous la possibilité d'être fragiles. Je sais pas comment.
En tout cas, soyons largement allons d'une palette à l'autre. C'est-à-dire laissons ouvert la coloration, la colorature de nos vies, quoi. Parce que c'est pas, il y a pas un côté plus fort que l'autre. Mais il y a une transparence pour moi. Il y a quelque chose à juste pouvoir laisser passer ce qui nous habite et d'essayer de le faire le plus clairement, directement possible avec les autres.
Ce qui nous traverse aussi, pour mieux le transmettre.
Ouais.
Merci d'avoir transmis plein de choses. dans l'instant 2.
Merci.
On aimerait passer des heures avec vous, c'est souvent ce qu'on doit vous dire, Catherine Germain, mais la radio, c'est une question de temps aussi. Et merci à Clémence Fuleda, parce que Clémence a re-rencontré peut-être sa cousine, qui elle-même est clown, Elsa Meigne, qu'on remercie chaleureusement. Et puis également, bien sûr, à Fred Florent. Qui vous a fait la surprise de parler de vous, en tout cas de vous dire peut-être aussi merci et continuez et continuons. On aurait pu parler de votre travail avec les musiciens aussi, de votre travail, les musiciens du Louvre, je voulais l'aborder à Grenoble. Ah. Voilà. Bon, on aurait pu aborder aussi votre croisement avec Patrice Chéreau. On aurait pu. On va rester sur on a fait et c'est déjà pas mal, non ?
Voilà,
on
bien.
A essayé. Merci bien. Beaucoup d'avoir été l'invité de l'instant de Catherine Germain.
Merci à vous.
À bientôt.
Merci.
Tous les podcasts de l'Instant 2 à retrouver, savourer et partager sur radiogrenouille.com. L'Instant 2 sur Radio Grenouille.